Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le soutien à la brasserie fribourgeoise Cardinal ne faiblit pas. Une manifestation se prépare devant les locaux à Fribourg. Elle est prévue pour 13h. Les employés ont défini 4 pistes pour sauver Cardinal, dont la production de bières spéciales. On retrouve notre correspondant sur place dans un instant. Swatch étend ses investissements dans l'horlogerie en Suisse. La plus grande société horlogère du monde vient d'acheter plusieurs terrains en Suisse pour y construire des usines. Le groupe prévoit d'engager 150 personnes. C'est un concours international qui peut paraître bien kitsch, mais qui nous a tous au moins une fois tenus en haleine devant le petit écran, le concours de l'Eurovision de la chanson. Le metteur en scène lausannois Massimo Furlan revisite l'Eurovision sur scène dans le cadre du Festival de la Bâtie à Genève. C'est ce soir et demain et ça devrait plaire vu le succès décroché au dernier Festival d'Avignon. La Norvège n'a pas pris de mesures aussi restrictives que les autorités américaines après l'explosion de la plateforme dans le golfe du Mexique. Et pourtant, elle est le 6e exportateur mondial de pétrole. La Norvège est-elle pour autant davantage à l'abri d'une catastrophe? Vous le découvrirez dans un peu moins d'un quart d'heure avec Offshore en mer du Nord, le reportage du magazine 15 minutes. Un week-end ensoleillé sur toute la Suisse romande. Il va faire doux jusqu'à 23 degrés. Même temps demain et lundi. Retour des précipitations lundi soir. La météo complète de Sébastien Dupéré, juste avant 13h. À Fribourg, la lutte contre la fermeture annoncée de Cardinal ne faiblit pas. Une manifestation de soutien devant les locaux de la brasserie se prépare en ce moment même. Elle est prévue à 13h. Et sur Facebook, la mobilisation s'intensifie également. Hier, les employés de Cardinal ont défini 4 pistes de propositions pour l'avenir du site que Feldschlossen compte fermer. Patrick Lefort, on vous retrouve en direct sur place à Fribourg. Devant la brasserie, la manifestation a l'air d'être importante.
Bon, pour le moment, c'est difficile à dire, puisque vous l'avez dit, c'est dès 13h que la population est invitée à se joindre au mouvement. Sous le soleil, pour l'instant, le rouge des nombreux drapeaux du syndicat Unia domine encore la couleur jaune de Cardinal. Une banderole est bien visible avec le slogan « L'emploi, l'expérience à Fribourg, soutenons Cardinal ». C'est donc dès 13h qu'on verra si le soutien des fribourgeois est solide. Sur les réseaux sociaux, vous l'avez dit, plus de 21 000 utilisateurs de Facebook s'affichent en faveur de cette cause. Les syndicalistes ne s'attendent pas cependant à une affluence monstre comme il y a 14 ans. En 1996, 10 000 fribourgeois avaient battu le pavé à l'occasion déjà de la décision de la maison mère Feldschlossen de fermer le site du Cardinal. Les organisateurs le disent, cette première manifestation ne sera pas la dernière. C'est surtout à la fin du mois quand il s'agira de négocier avec la direction que les syndicats voudront mettre un maximum de pression. Pour l'heure, ce rassemblement s'apparente à une prise de température. Plusieurs orateurs se succéderont à la tribune cet après-midi, des syndicalistes, mais aussi le président du PS Suisse, Christian Levrat, et le syndic de Fribourg, Pierre-Alain Clément. Unia espère que ce dernier abandonnera le ton résigné qu'il avait affiché il y a quelques jours lors de l'annonce de la fermeture de la brasserie.
Patrick Lefort en direct de Fribourg, merci. Il est l'heure d'investir dans l'horlogerie en Suisse et nous le faisons actuellement. C'est en substance le message délivré aujourd'hui dans le journal Le Temps par Nick Hayek, directeur général du groupe Swatch. La plus grande société horlogère du monde vient d'acheter plusieurs parcelles en Suisse pour y construire des usines, Muriel Balaman.
Oui, plusieurs différents projets sont en discussion. Selon Marc Hayek, membre de la direction générale de Swatch Group que nous avons joint ce matin, leur emplacement se situe dans la région de Bienne, en Romandie et au Tessin, à la clé jusqu'à 3 usines d'ici 4 ans et plusieurs centaines d'emplois. La multinationale biennoise entend donc répondre à une demande toujours croissante en investissant et elle a choisi de le faire en Suisse.
Et pourtant, cette croissance, Muriel Balaman, eh bien, c'est de l'étranger hein, que le groupe l'importe.
Oui, en particulier de Chine. Nick Hayek constate 300 millions de Chinois ont désormais les moyens de se procurer une montre ou plusieurs. Une montre relativement peu coûteuse comme Swatch. Parmi ces 300 millions de Chinois, Nick Hayek estime que s'ils ne sont ne serait-ce que 2% à passer à l'achat, ce sont 6 millions de pièces vendues. Conclusion, Swatch Group doit construire un ou plusieurs nouveaux sites de production en Suisse et engager des centaines de personnes. Une démonstration huilée comme un coucou Suisse, signé Nick Hayek.
Et cette stratégie optimiste, Swatch Group l'applique depuis longtemps.
Oui, une anecdote. C'était en pleine crise économique, au début de l'an dernier, un journaliste qui lui demandait si la prochaine étape après le chômage partiel, c'était le chômage complet. Nick Hayek rétorquait ou alors le plein emploi. C'était prémonitoire. Swatch Group n'a procédé à aucun licenciement à cause de la crise l'an dernier et il est maintenant à la recherche de personnel. Rien que pour son fabricant de mouvements horlogers ETA, il a besoin de 150 personnes et pas pour demain, précise Nick Hayek, pour aujourd'hui.
Muriel Balaman, merci. L'un des plus violents tremblements de terre de la Nouvelle-Zélande a frappé l'île cette nuit, principalement dans la ville de Christchurch, la deuxième ville du pays. La secousse d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter a provoqué de graves destructions, mais par chance, elle n'a pour l'heure fait aucune victime. Seules 2 personnes sont sérieusement blessées. Nous avons pu joindre sur place ce matin Romain Guignard. C'est un Suisse de 24 ans qui passe quelques mois en Nouvelle-Zélande, à Queenstown. Si cette ville, Queenstown, est à 1400 km de l'épicentre du séisme, Romain Guignard a tout de même été réveillé cette nuit par la secousse. Écoutez.
Alors on a simplement ressenti en fait un grondement en fait avec un léger bruit, mais je veux dire on n'imagine absolument pas l'ampleur du tremblement de terre qu'il y a eu à Christchurch. Donc les gens nous ont informés et on sait voilà, qu'en Nouvelle-Zélande quelque chose peut se passer. Donc vraiment on s'imaginait pas du tout ce que ça pouvait être sur le moment.
Au réveil ce matin, vous avez découvert la réalité à la télévision ?
Ouais, c'était assez impressionnant. Une fois qu'on a vu vraiment ce que ce petit grondement qu'on a entendu le matin avait donné, c'est complètement différent. D'après ce qu'on a pu voir, en tout cas, les dégâts matériels sont importants, dans le sens où on voyait vraiment des immeubles des fois à moitié effondrés, je veux dire des routes dans lesquelles des grosses crevasses s'étaient formées, je veux dire la ville de Christchurch a vraiment l'air d'avoir été touchée fortement. L'épicentre, d'après ce qu'il disait, devait se situer à environ 30 kilomètres de la ville, donc vraiment très proche. Après, lui, ils craignent des dégâts surtout souterrains par rapport aux conduites d'eau, à l'électricité, à tout ce qui est approvisionnement fait en énergie. C'était vraiment, vraiment quelque chose de grande ampleur, en tout cas.
À Genève, maintenant, c'est la traditionnelle journée de présentation et de recrutement de la police genevoise, comme chaque année. L'enjeu est de taille, séduire et susciter de nouvelles vocations. Philippe Nanzer s'est rendu ce matin au centre sportif du Bois des Frères dans la banlieue genevoise, le lieu où se déroule cette journée de recrutement et de prévention ouverte à tous. Et dès les premières heures, eh bien, il y avait du monde, Philippe Nanzer.
En effet, et il faut dire que l'an dernier, cette même journée de recrutement a attiré 2000 visiteurs. Et pour Philippe Cossandet, porte-parole à la police de Genève, cet événement est un excellent vecteur pour susciter des vocations dans les métiers de la police, d'autant plus que les conditions de recrutement se sont assouplies.
Si on fait ça, dans un premier temps, on ne se le cache pas, c'est clair, c'est pour le recrutement. On doit engager du personnel, on doit engager des policiers, donc on est là pour promouvoir nos métiers. Il y a des policiers et des recruteurs qui sont présents pour vendre leur profession, et puis le centre de formation qui présente les examens d'entrée de sport et de français. Les critères sont assez simples, dans le sens où il faut avoir une nationalité suisse ou pouvoir obtenir la nationalité suisse avant la fin de sa formation. Il faut avoir une formation reconnue sur le plan fédéral, un CFC ou un diplôme de l'ECG pour les Genevois, tout ça au minimum. Et puis l'âge qui a été modifié il y a quelques jours maintenant, va être âgé entre 20 et 35 ans. C'était 30 ans jusqu'à il y a quelques jours, début septembre. Maintenant c'est 35 ans, on ne doit pas dépasser les 35 ans avant la fin de sa formation.
On attend beaucoup de visiteurs cet après-midi avec un événement à ne pas manquer à 15h, la démonstration d'un accident de la route en direct. Avec l'intervention des pompiers, désincarcération d'un blessé, bref, un super show.
Et un reportage signé Philippe Nanzer, très encourageant. Je rappelle cette journée de présentation et recrutement de la police genevoise. C'est toute la journée jusqu'en fin d'après-midi au centre sportif du Bois des Frères à Genève. Départ maintenant pour le Festival de la Bâtie qui a ouvert ses portes hier à Genève toujours. Et coup de projecteur sur le nouveau spectacle de Massimo Furlan intitulé 1973. Après son succès au dernier Festival d'Avignon, le metteur en scène lausannois présente sa dernière création ce soir et demain à la Bâtie. 1973, où quand Massimo Furlan revisite sur scène, rien de moins que le concours de l'Eurovision. Michel Masseret.
Nous sommes en 1973, cette année-là, Massimo Furlan avait 7 ans et vissé devant le petit écran, il découvrait le grand spectacle de variété TV de l'année.
Monsieur, madame, mademoiselle, bonsoir. Ici Pierre Tchernia qui vous parle de Luxembourg.
Près de 30 ans plus tard, il redonne vie à ce show en incarnant quelques-uns de ses interprètes à grand renfort de perruques et postiches, de robes en strass et bien sûr de pantalons pas de def. Pendant un peu plus d'une demi-heure, les concurrents se succèdent, incarnés par un Massimo Furlan qui reproduit le moindre tic du personnage. Simple exercice de style ? Pas vraiment. Massimo Furlan.
D'abord, ce que je voulais, c'était donner au spectateur le matériau. C'est-à-dire en essayant de reconstruire le plus fidèlement possible, chanteuses et chanteurs de cette édition-là, Finlande, Portugal, Espagne, etc., etc. Ensuite, à partir de ce matériau qu'on revoit, qu'on arrive mieux à comprendre peut-être, commencer, entamer une discussion anthropologique et philosophique autour de cet objet-là. Donc, c'est vrai qu'il y a une première partie et une seconde qui sont au fond assez claires, même si dans la seconde partie, la question de la musique et les performeurs autres continuent, tous les chanteurs sont encore visibles.
Ils sont visibles en arrière-plan, leur voix comme étouffée, fantôme d'un spectacle restitué par Massimo Furlan, ou plutôt Pino Tozzi, animateur de soirée, grand ordonnateur de cette soirée Eurovision. Sur le devant de la scène, il discute avec ses idoles chanteurs. Le spectacle vire alors à la causerie philosophico-anthropologique sur le spectacle, une constante dans l'univers de Massimo Furlan qui ne cesse de questionner la culture populaire en portant souvent la lunette du kitsch pour observer une société en perte de repères.
1973, la dernière création de Massimo Furlan à découvrir ce soir et demain au Festival de la Bâtie à Genève. Du tennis, c'est deux Suisses qui sont engagés pour le troisième tour de l'US Open. Deux Palois, Patty Schnieder, qui sera opposée à la jeune Belge Janina Huijmaer, 18e joueuse mondiale. Ce match se déroulera aux alentours de 19h30, 20h, heure suisse. Puis ce sera le tour de Roger Federer qui sera face à Paul-Henri Mathieu. Le Français est habitué à rencontrer les meilleurs joueurs de la planète tennis. Il hante en effet les circuits depuis de nombreuses années. Et il sait surtout à quoi s'attendre face au numéro 2 mondial, Paul-Henri Mathieu.
Forcément, ça sera un match très difficile. Voilà, aujourd'hui, j'ai rien à perdre. J'ai souvent joué contre des joueurs comme ça en troisième tour en Grand Chelem. J'ai joué Nadal plusieurs fois. Il me semble que Roger, j'avais joué au troisième tour à Roland. J'ai joué Djokovic plusieurs fois, donc j'ai envie de dire pourquoi pas une fois. Sinon, ça sert à rien de rentrer sur le terrain. Le plus difficile à passer, j'ai envie de dire, c'est quand il présente son palmarès pendant l'échauffement, parce qu'il vaut mieux se boucher les oreilles. Parce que là, oui, là, c'est impressionnant, mais bon, quand on passe cette étape, après, on est bien. Federer, on sait qu'il va nous faire des coups qu'on n'a pas l'habitude de voir ou de recevoir quand on est en face. C'est vrai que, enfin, il ramène des balles où il arrive à faire un point de n'importe quel coin du court que des joueurs ne peuvent pas faire. Il n'y a pas de recette miracle, je pense. Si on veut se donner le maximum de chances pour pouvoir gagner contre lui, c'est vraiment d'y croire avant le match. Donc là, j'espère faire un bon match, même s'il y a très peu de chances que je l'emporte. Je vais essayer de jouer vraiment cette chance à fond et on verra bien. Time.
Paul-Henri Mathieu, interrogé par notre envoyé spécial à Flushing Meadows, Laurence Bolomé, match Roger Federer, Paul-Henri Mathieu. Ce sera sur le coup de 21h, heure suisse.
15 minutes. Le magazine de reportage de la rédaction.
Après l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, les autorités américaines ont imposé un moratoire pour les forages de pétrole en eau profonde. La Norvège, 6e exportateur mondial, n'a pas pris une telle mesure. Est-elle pour autant plus à l'abri d'une catastrophe? Ses normes de sécurité sont-elles plus restrictives? 15 minutes s'est rendue sur la plateforme d'exploration offshore Transocean Winner, une plateforme en cours de forage pour le compte de l'entreprise pétrolière suédoise Lundin Petroleum, dont le siège est à Genève. Christine Batruche, la responsable santé, sécurité et environnement de l'entreprise, nous emmène à bord. Offshore, en mer du Nord, c'est un reportage de Frédéric Pfeiffer, Sandro Lichy et Cyril Delemer.
Donc là on arrive, vient de descendre de l'hélicoptère, on monte sur la plateforme, on a croisé l'équipe qui repart à terre après 2 semaines de travail. Ils vont se reposer 4 semaines.
Yes, yeah. Tonight.
So the reason why I give you this is that you have lifeboat 2 and 4, but the RSSC will show you.
On nous donne une feuille avec un numéro de bateau de sauvetage. Bateau numéro 2.
Voilà.
Je pense le.
Ça, c'est une alternative. Ça dépend où tu te trouves sur la plateforme au moment où il y a une alarme. Tu as une alternative. Hein?
Ah, d'accord, là ce serait le numéro 4. Ok.
Normalement, on nous attribue une cabine. On pourrait aller à la cabine, enlever le survival suit et ensuite se réunir à la salle de conférence parce que c'est là qu'ils nous feront un briefing
sécurité.
Welcome to Transoxygen. I'm the OIM.
Oh, hello. I'm Christine Batrouche.
Okay.
VP Corporate Responsibility, responsible for health, safety, and environment for Lundin in Geneva, corporate. In Geneva. And this is our colleague from the radio, Swiss Radio.
Okay. Swiss Radio. Hi.
Hi.
C'est le chef de la plateforme. Donc, comme vous avez expliqué, il y a deux chefs, dans le sens où il y en a un qui est responsable de la plateforme, c'est lui. Donc, lui, il prend toutes les décisions quant à l'évacuation et les choses comme ça. Et puis, ensuite, on a notre représentant, qui, lui, est le chef du forage, en fait.
C'est l'équivalent du capitaine de bord, en fait.
Alors, c'est le capitaine de bord, OIM, en anglais.
Offshore Installation Manager.
Bienvenue chez Transocean. Ce rig comporte un certain nombre de règles nécessaires pour accomplir les standards d'excellence de Transocean et n'est qu'une installation faisant partie d'une grande flotte opérant dans le monde entier. Le but de cette vidéo est d'identifier les règles et procédures clés qui doivent être suivies quand on travaille sur un rig de Transocean.
Christine Batrouche, donc nous avons fait à peu près 40 minutes, une heure de vol depuis donc Stavanger ici sur la plateforme Transocean Winner, qui est une plateforme d'exploration. La suite du programme, qu'est-ce que c'est ? Donc chaque personne qui descend de l'hélicoptère à ce moment-là est briefée à nouveau et accueillie par le capitaine de bord.
Voilà. Ce qui va se passer, c'est que quand on descend, le capitaine de bord accueille le groupe. Il va expliquer quels sont les points principaux par rapport aux opérations, où on en est, des consignes sécurité en général. Et ensuite, on aura un tour sécuritaire de toute la plateforme où on va nous expliquer les différentes opérations. Et devant nous, on a une carte qui démontre toutes les opérations qu'il y a. Alors on voit par exemple Alvheim, c'est aussi Lundin, PL, nous on est 501, Luno 338, c'est nous également. Enfin, il y a beaucoup de nos concessions parce que Lundin a 41 concessions en Norvège. Donc on est un des plus grands opérateurs sur la côte norvégienne.
Et au niveau européen, vous êtes à peu près...
On est dans les 5 premiers ou plus grands opérateurs indépendants.
Welcome to Transocean Winner. My name is Bjørn Lorentzen. I'm the OIM. Present status on the well. All third-party personnel has to fill in a timesheet. And that has to be signed by me before you leave the rig.
Et chaque champ, en fait, a un nom ou un numéro.
Soit un nom, soit un numéro. Souvent, il y a un nom au moment où il y a une découverte. On donne un nom au champ. Jusque-là, ils ont des numéros. Parce que les numéros sont attribués par les autorités. Par exemple, ils ouvrent une vingtaine de concessions. Et des sociétés pétrolières préqualifiées font ce qu'on appelle des offres en disant, nous, on est prêts à prendre cette concession. Voilà le travail qu'on va faire, c'est-à-dire tant de kilomètres carré de sismique, etc., etc. Et une fois qu'on nous attribue la concession, on doit faire le travail auquel on s'est engagé dans une période délimitée. Et une fois qu'il y a des découvertes, ça devient des noms, ou une fois que ça devient un champ producteur.
Everybody that is new on the rig also will get a mentor to make sure we take good care of him, which is Arne Hemminghit. We'll take care of that.
Hold on. Og svinger litt med sola, ja. Litt mer ut.
Hei.
Hei.
Donc ici, c'est une sorte de grande salle de commandement où on contrôle les ballasts pour la stabilité de la plateforme par rapport au poids qu'il y a sur le pont, les vagues, la mer, etc. C'est là qu'on fait donc...
Ils font des calculs tous les jours pour établir oui, les différents poids et où il faut mettre du ballast, etc.
Voilà, et maintenant qu'on a passé l'atelier de réparation, la salle des moteurs et l'atelier de soudure ainsi que l'atelier électrique, on va pouvoir arriver sur le pont principal. Donc une échelle à monter très raide et on arrive enfin à l'air libre. Donc ici on est à peu près quoi, à 30 mètres au-dessus de la mer. Donc avec sur la plateforme, des tuyaux par milliers. Et là, donc vraiment, on domine de très très haut. On voit donc les énormes pieds qui permettent à la plateforme de tenir en hauteur avec une chaîne, une énorme chaîne. Donc il y a des ancres. La plateforme est ancrée très profondément pour pas qu'elle bouge et qu'elle bouge le moins possible.
This is an exit to sea in case of an emergency, but that's the last resort, the last way out.
Donc ça, c'est la dernière étape dans une situation d'urgence qui permet une sortie par la mer. Naturellement, la première évacuation se fait par hélicoptère ou ensuite par bateau de sauvetage.
Donc c'est une sorte de nacelle en fait, hein, une nacelle qui permet de descendre de façon extrêmement rapide jusqu'au niveau de l'eau depuis la plateforme.
C'est une solution in extremis. Quand il y a des matières inflammables, ou il y a toujours des barrières de protection, il y a toujours des grilles. Donc tous les produits chimiques, etc., ils ne sont jamais stockés à même la plateforme. Ils sont stockés sur des grillages. Donc si par hasard il y avait une fuite, elle n'arriverait pas sur la plateforme elle-même, mais dans ce bac de rétention.
Donc là, on continue le tour sur la plateforme. Il y a des conteneurs. Au-dessus de nous se trouve donc le puits de forage, hein, avec tous les tubes qui sont suspendus, une sorte de structure comme une tour Eiffel qui doit bien faire dans les 50 mètres de haut. Le derrick, donc. Voilà, on le voit en train d'opérer. Ils sont en train de prendre des tuyaux. Donc là, on rentre sous le derrick. Il y a une sorte de plateforme à l'intérieur. On voit la mer en dessous avec.
You see the slip joint and the riser going all the way down to the BOP.
Ça, c'est ce qu'on appelle le riser, c'est-à-dire cet énorme tube principal dans lequel les autres tubes sont enfilés en fait pour descendre. Et c'est la fameuse valve qui a apparemment pas marché sur Deepwater Horizon et qui serait une des causes en tout cas de l'explosion et du retour en fait de pression.
Alors c'est dans cette valve qui est énorme, qui est une contraption avec plein de systèmes différents, où il y aurait eu justement blocage de certains des cisaillements qui font partie de ça. Mais ici on a un système de fermeture de cette valve automatique depuis la salle de contrôle, chose qu'il n'y a pas, c'est pas obligatoire aux États-Unis alors que ça l'est en mer du Nord, en Norvège.
Ce qu'il faut préciser, c'est qu'ici donc on fort le fond de la mer est à peu près 150 mètres en dessous de la surface, contrairement à Deepwater Horizon qui était à 1500 mètres. Donc là, on n'est pas dans des eaux très profondes.
Pas du tout, on est dans des eaux tout à fait normales, oui.
Encore une porte, merci. Christine Batruche, est-ce que la catastrophe de donc Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, ça a changé quelque chose dans la manière de fonctionner de votre entreprise ?
Alors je dirais que il faut, chaque fois qu'il y a un incident majeur, il faut se poser des questions. Alors évidemment, on se pose des questions. On a tout de suite pris la mesure de cette catastrophe. On a réalisé qu'au niveau réputation de l'industrie, il y aurait un impact, évidemment. Mais de façon beaucoup plus importante, on s'est dit, c'est le temps de revoir certains des aspects de nos opérations au vu de ce qui s'est passé pour voir si on était paré à ce genre d'incident. Et effectivement, on a tout de suite demandé à toutes nos opérations, parce qu'on est dans divers pays, de voir est-ce qu'ils ont les bons systèmes d'urgence, d'évacuation, les mécanismes, quel genre d'équipement on a, parce qu'il y a des équipements selon les pays où on a, il y a des exigences différentes. Et naturellement, en Norvège, les exigences sont très très élevées, parce que la mer du Nord, en général, a des standards très très élevés. Donc il y a plein d'aspects sécuritaires qu'il n'y aurait pas dans d'autres régions du monde.
Christine Batruche, en cas de pollution par exemple, l'opérateur, c'est-à-dire en l'occurrence ça pourrait être vous ou bien des grandes compagnies comme BP ou Statoil, est responsable des déversements par exemple de produits dans la mer ou de fuites de pétrole par exemple ?
Oui, oui, absolument. Mais ce qu'il faut faire de nouveau, c'est anticiper ces choses, et c'est-à-dire avoir un personnel formé pour s'en occuper. Il faut avoir des contracteurs. Nous, on a engagé une société pour tous nos forages partout dans le monde. Si d'aventure on avait une pollution, on a un service qui vient immédiatement avec tout l'équipement nécessaire, que ce soit une surveillance aérienne de la pollution. On a des bouées qu'on met autour de la pollution. Enfin, il y a un équipement très très sophistiqué. Mais avant ça, on a notre personnel qui a été formé là-dedans. On a aussi un document qui s'appelle Oil Spill Response Emissions Plan, donc répondre à une pollution, qui établit à l'avance les courants, les vents et qu'est-ce qui se passe par rapport à la viscosité, par exemple, du pétrole. Quel va être son cheminement? Est-ce qu'il va s'évaporer? Est-ce qu'on aura besoin de produits chimiques? Parce que naturellement, les hydrocarbures sont pas tous les mêmes, dépendant où ils se trouvent. La proportion de gaz par rapport à l'huile et toutes ces choses-là, elles sont anticipées dans ce plan qui prévoit à l'avance ce qui se passerait en cas de pollution et quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour y parer.
Paul Frisvold, donc vous êtes membre de l'ONG Bellona ici à Oslo. On connaît vos positions, hein. Vous êtes plutôt environnementaux, vous essayez de faire bouger les choses en direction d'une plus grande réglementation, par exemple, sur la question du pétrole. Est-ce que vous pensez qu'un accident comme celui qui s'est passé à Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique peut influencer, faire changer les lois et la réglementation ici en Norvège concernant le forage et l'exploitation du pétrole?
C'est sûr que ce qui s'est passé en Mexique est une prise de conscience. On doit faire quelque chose. On doit mieux voir comment est le fonctionnement de notre règlement. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'un grand chose va changer. Là, il y a un moratorium aux États-Unis jusqu'à 1er novembre et chez nous, on continue comme rien ne s'est passé.
Est-ce que vous pensez que les entreprises sont capables de tirer les leçons de cette catastrophe?
Je pense que les entreprises sont peut-être ceux qui sont le mieux placés pour évoquer les vrais problèmes.
La politique de Bellona, c'est une collaboration avec les entreprises du monde du pétrole, c'est pas simplement une confrontation.
Ce n'est pas les politiciens ni nous, les activistes, qui va pouvoir changer le monde. Notre rôle, c'est de travailler avec eux, de développer des vraies solutions et de fonctionner comme un espèce de pont entre les nouvelles solutions technologiques développées par les sociétés et les gouvernements qui peuvent justement adopter une politique, un règlement avec des limites, ce qui fait en sorte que les nouvelles solutions soient économiquement rentables et que ce sont les solutions sûres, que ce soit pour l'écologie, que ce soit pour le climat, que ce soit pour les ressources humaines, deviennent le standard de chez nous, en Europe et partout dans le monde.
Paul Frisvold, de diverses entreprises, que ce soit Statoil par exemple ou Lundin également, ont des projets de forage en mer de Barents. Ils ont reçu les concessions pour faire des explorations. Pour quelles raisons est-ce que votre organisation est opposée à ces forages?
Écoutez, la mer Barents est une mer qui est le plus fragile au monde. C'est la dernière mer qui n'est pas encore véritablement touchée par l'exploitation pétrolière. Nous constatons que dans la mer du Nord, dans la mer de Norvège, il y a encore beaucoup de pétrole qui reste dans les puits. Avant d'aller dans d'autres endroits, il faut d'abord terminer ce qui existe. Et en plus, autour du cercle polaire, il y a une nature très fragile que nous aimerons garder intouchée par l'homme. Il faut reconnaître qu'on n'a pas quitté l'âge de pierre à cause de manque de pierre. On ne va pas quitter l'âge de pétrole à cause de manque de pétrole. Maintenant, l'Europe va se décarboniser. D'ici 30 à 40 ans, la demande de combustibles fossiles sera nettement réduite. Il faut se préparer à affronter ce futur-là. Et si on continue à ouvrir de nouveaux endroits pour exploiter du pétrole, on ne va jamais pouvoir avancer dans la bonne direction.
Offshore en mer du Nord, c'était un reportage de Frédéric Pfeiffer en rediffusion ce soir à 22h40 sur la Première. La météo, Sébastien Dupéré.
Un anticyclone centré sur la mer du Nord influencera favorablement le temps sur la Suisse jusqu'à lundi. Dès mardi, une série de perturbations traversera le pays. Aujourd'hui, les conditions seront idéales. Les dernières brumes se sont dissipées et le temps restera ensoleillé toute la journée. Quelques voiles d'altitude traverseront par moments le ciel cet après-midi et en soirée, mais ils resteront inoffensifs. Les températures atteindront entre 23 et 25 degrés maximum. Demain, mis à part des nuages élevés parfois denses dans les Alpes en matinée et de rares bandes brouillard au réveil, le soleil restera omniprésent. Dans l'après-midi, quelques cumulus ne sont pas exclus en montagne. Le mercure indiquera entre 22 et 24 degrés. Lundi, le ciel restera encore bien dégagé malgré l'arrivée de nuages de plus en plus denses par l'ouest en cours d'après-midi. Les premières précipitations toucheront le Jura en fin de soirée. Dès mardi, les conditions vont sérieusement se détériorer et les précipitations pourront être abondantes sur l'ouest et au sud des Alpes.
La météo avec De Villard, solution d'impression en réseau.
Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochaine édition principale de l'info, forum ce soir 18h-19h. Bon après-midi à vous, bon week-end, il est 13h sur la première.